On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Mmh. On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
L'aubergine.
Alors, originaire de l'Inde, on en est à peu près certain.
Ma belle-mère faisait un fricot d'aubergine. Nous le mangions froid, qu'on descendait en casse-croûte au bord de la mer le soir.
Une ratatouille dans laquelle on distingue encore parfaitement la tomate, la courgette, l'aubergine et le poivron.
En tant qu'arménienne, l'aubergine fait vraiment partie de notre cuisine. Il y a une recette en arménien qu'on appelle Iman Bayen 2, qui est en fait des aubergines, ail et huile.
On ne fait rien avec une aubergine seule. C'est un légume qui aime la compagnie, de même que moi j'aime la cuisine en compagnie.
Bonjour à toutes et tous, nous aussi on aime la compagnie sur le plateau dont on va déguster, je vous la promets bonne, cette compagnie en ce dimanche 15 juillet. Nous sommes en direct pour parler d'un légume fruit star, c'est l'aubergine. Et c'est le deuxième volet de notre série d'été. Notre premier invité est docteur en agronomie, à la tête avec son associé Dominique Velay, de la ferme de Sainte-Marthe à Brun-sur-Lothion. On est dans le Maine-et-Loire, dans la région de l'Anjou, c'est Arnaud Darsonval, bonjour.
Bonjour à tous.
La ferme de Sainte-Marthe, hein, c'est 1100 variétés non hybrides bio, dont une douzaine de variétés d'aubergines que vous cultivez et dont vous nous avez apporté quelques spécimens.
Oui, on a environ 13 variétés au catalogue et j'en ai amené quelques-unes que j'ai trouvées sur les marchés avant de venir.
Il y en a de toutes les couleurs avec même des formes étonnantes. On va pratiquer la leçon de choses avec vous autour de l'aubergine. Arnaud, notre deuxième invité, est une de nos cuisinières chouchou, évidemment, auteur de très nombreux livres de cuisine qu'on adore. C'est Sonia Esgulian. Bonjour Sonia.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'avoir fait le voyage depuis Lyon pour être avec nous en direct. Vous entretenez une relation très spéciale à l'aubergine et vous avez notamment préparé une surprise arménienne.
Oui, entre autres.
Clin d'œil à votre grand-mère arménienne, bien sûr, entre autres, parce qu'on va voir que on voyage avec l'aubergine et vous allez nous le prouver dans les jolies choses que vous nous avez apportées. Avec nous également aujourd'hui, Estherelle Payani et Antoine Gerbel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour les supporters de l'aubergine.
Estherelle, qui a une grande nouvelle à nous annoncer. Elle a eu son...
CAP
Cuisine.
Bravo,
on applaudit.
Merci.
Première de la bande dont on va déguster à obtenir son CAP Cuisine. Et...
un diplôme tout court.
Bravo, Sarah.
Un diplôme niveau 3e quand même, que j'ai préparé en secret toute l'année.
Oui.
Et j'en profite pour remercier mon professeur de cuisine aux cours municipaux de la ville de Paris,
oui,
où je suis allée tous les jeudis soirs. À savoir le cuisinier Christian Cazel, qui m'a supporté toute l'année derrière mes couteaux.
Merci Christian, on est fiers de notre Estherelle avec son CAP. Et votre recette du jour, elle n'est pas franchement CAP, hein ?
Non, moi j'ai l'aubergine tonique.
L'aubergine tonique, festival de jeux de mots. Antoine Gerbel, bonjour !
Bonjour !
Dans nos verres !
Variation autour des rouges d'été, 3 coups de tête, un titulaire et un remplaçant.
Ça file la métaphore footballistique, je le sens aujourd'hui. Derrière la console en direct, Camille Blanet, Jérémy Guillon et Nadia Chougui. Des questions, des recettes, des tours de main autour de l'aubergine, envoyez-nous un mail sur onvadéguster@radiofrance.com ou sur Twitter avec le mot-clé on va déguster.
France Inter avec François-Régis Gaudry, on va déguster
l'aubergine.
Mais juste avant l'aubergine, mon adresse de la semaine, vous connaissez mon combat pour la carbonara. Je suis obsédé par cette pasta d'origine romaine et c'est peut-être bien l'une des recettes les plus galvaudées, les plus caricaturées, les plus martyrisées du répertoire italien, notamment par les Français, qui sont quand même assez fous pour faire des carbonara selon l'humeur, au saumon fumé, ou des carbonara à la crème fraîche.
Non !
Erreur ! Dans la carbo, la crème est un...
crime !
Oh, bravo ! Non. J'ai dégusté l'une des meilleures carbonara de ma vie. Oui, oui, et pas à Rome, où j'ai pourtant écumé de très nombreuses adresses de trattoria, et, enfin je devrais dire trattorier et osterier, mais à Linguizzetta, un village de Corse situé sur la plaine orientale à une 60aine de kilomètres au sud de Bastia. Imaginez un hôtel-restaurant très moche, genre crépi rose des années 70.
Genre plaine orientale.
Voilà, exactement. Je sais qu'Arnaud Gerbel, par sa femme corse, connaît bien l'île de beauté. On est au bord de la T10. C'est la route territoriale très fréquentée le long de la plaine de la côte orientale qui relie Bastia à Bonifacio. Ça s'appelle Chez Marie.
Alors Marie n'est plus là, c'est plus la patronne, mais c'est son neveu qui a repris l'adresse. Pascal Orsini, dans un vieux bar tabac assez kitsch, revu avec beaucoup de charme. Il y a notamment une terrasse idyllique derrière la maison. Et en cuisine, attention, c'est Sergio Risdone qui s'y colle, un chef d'origine romaine, il n'y a pas de mystère, qui a appris la carbonara avec sa grand-mère. 110 grammes de mezzi rigatoni, ce sont des petites pâtes courtes en forme d'anneau de la fabrique napolitaine Cetaro. Pour le guanciale, vous savez qui est cette joue de porc salaisonnée qu'on grille traditionnellement pour apporter comme ça une touche cochonne, j'ai envie de dire, à la carbo. Sergio choisit de la joue de Corse, de cochon noustral local, cuit en petites tranches bien grillées. Une émulsion à l'œuf avec du pecorino, ce fromage de brebis, et beaucoup, beaucoup de poivre. C'est important, le poivre. Et ben, résultat, une pâte au bon goût de blé dur, cuite, al dente, une émulsion enveloppante et onctueuse, cette joue grillée à la fois croustillante mais juteuse quand vous croquez dedans, vous savez, et pas mal de poivre concassé. Voilà, une vraie carbo pour 14 euros, mais c'est un plat extrêmement nourrissant, fait avec des produits de grande qualité. Vous aimez la carbonara ou pas?
J'adore.
Sonia?
J'étais en train de penser. On va parler tout à l'heure d'une recette qui s'appelle Imam Bayildi. Ça veut dire qu'on s'évanouit de bonheur en mangeant cette recette.
Ben, la carbonara, on peut s'évanouir aussi, ouais.
Au bord de l'évanouissement, moi, après cette description.
On peut être, on s'évanouit pas, on peut être carbonisé par un carbo. Pourquoi pas, avec cette carbo qui carbure. C'est la carbo de Sergio Risdone à déguster chez Marie. L'adresse de Sergio et Pascal à Linguizetta en Haute-Corse. Et en parlant de Corse, j'en profite pour vous annoncer que j'aurai l'immense plaisir de participer à Altaledie. C'est le nom du festival littéraire d'Altagène, un village de Corse du Sud. Ce sera dimanche prochain, le 22 juillet, à midi, séance dégustation, en compagnie notamment d'un jeune chef corse étoilé, Jean-Baptiste Lavergne, et de notre ami caviste et expert en vin corse, Nicolas Stromboni. Vous le connaissez, bien sûr, Antoine.
Le bon Nicolas, l'excellent Nicolas.
Voilà. Et à 15h, toujours le dimanche, je dédicacerai On va déguster la France. Venez nombreux au festival Altaledie, où vous aurez la chance par ailleurs de rencontrer les écrivains Jérôme Ferrari et Charles Pépin, ou encore le dessinateur Jules. Et cette programmation de haut vol, on la doit à notre amie Christine Siméon, journaliste bien connue dans la maison, et qui a comme son patronyme l'indique quelques accointances avec la Corse. Toutes les infos sur franceinter.fr, à la page où on va déguster.
Box. Say you wanna take time just to change your state of mind. Don't wanna complain about the abuse. It sometimes makes you a little bit furious. You don't want no cocktail. You don't want no champagne. You don't want no cookie. You like the modern loving, and you love your soul. My angel on earth, you're more than you worth. My angel on earth. This morning on my cell phone, before I started reading, I felt my heart bleeding. You don't like your alibis, living by those silly guys. You don't want no cocaine. You don't want no champagne. I don't want no cocktails. You love the Mar-a-Lago. Yeah.
Le retour de Winston McAnuff, un jazzman jamaïcain qu'on aime beaucoup sur le plateau dont on va déguster, accompagné de l'accordéoniste français. Fixie, c'était le titre My Angel, choisi par l'ami Djoubaka pour ensoleiller votre été sur France Inter.
On va déguster les saveurs de l'été.
En anglais, c'est eggplant, melanzana en italien, berenjena en espagnol, brinjal en indien, qui a donné bringel à La Réunion, petit pays français, petite île française, grosse île française d'outre-mer, bedangan en persan, albadidjan en arabe, et comment dit-on en arménien ?
Alors, en fait, à la maison, on disait Batoljan, mais j'ai très peur que ça soit du turc encore, parce que je suis rentrée d'Arménie et j'ai appris que je disais plein de mots turcs dans le langage. Il me semble qu'en arménien, c'est Sempouk, mais d'accord. Je crois que voilà, beaucoup d'Arméniens de la diaspora disent Batoljan.
Vous aurez compris que c'est l'aubergine, évidemment, l'un des légumes, fruits, stars de l'été, présent dans toutes les cuisines méditerranéennes, même si, curieusement, ses origines sont un peu plus lointaines. Arnaud d'Arsonval.
Ben oui, tout à fait. L'ancêtre de l'aubergine est originaire finalement des savanes équatoriales de l'Afrique de l'Est.
Ah d'accord, c'est même pas l'Inde.
Et le Moyen-Orient.
Il a des ancêtres.
Alors, c'était à cette époque un petit arbuste épineux avec des fruits tout petits, donc pas tout à fait l'aubergine qu'on connaît aujourd'hui. Celle qu'on connaît aujourd'hui a été domestiquée dans une aire qu'on situe entre la Birmanie, l'Inde justement, et puis l'Indochine. Donc à partir de là. Elle a conquis le Moyen-Orient et est arrivée sur le nouveau continent petit à petit.
Absolument, et a colonisé évidemment tout le pourtour du bassin méditerranéen, puisqu'on associe beaucoup l'aubergine à la cuisine à la fois italienne, provençale, espagnole, maghrébine, levantine, turque, évidemment, grecque. Que ferait-on est-ce qu'on pourrait faire une moussaka sans aubergine ?
Non, pas en effet.
Ce serait assez compliqué. On a deux questions d'auditeurs tout de suite. Arnaud d'Arsonval qui nous demande pourquoi on considère botaniquement l'aubergine comme un fruit.
Botaniquement, le fruit, en fait, c'est une fleur qui a été pollinisée. Mm-hmm. Et en fait, à partir de là, les réserves se font autour de cette fleur et de la graine qui va se former à l'intérieur. Mm-hmm. Et donc, on appelle ça un légume-fruit.
Comme pourrait l'être
comme la courgette. Comme pour la tomate, comme les courgettes finalement, comme toutes ces fleurs qui vont se transformer en organes de réserve.
Absolument.
Pour se développer plus tard et se disperser, se disséminer via les graines.
C'est botaniquement la définition d'un fruit. Merci beaucoup Arnaud pour cette précision. Attention, un imam va s'évanouir sur le plateau dont on va déguster. Oui, retour en Arménie avec Sonia Esgulian, dont le patronyme trahit les origines, évidemment.
Voilà.
Votre grand-mère est arménienne.
Oui.
Et vous tenez de votre grand-mère quelques beaux souvenirs culinaires.
Oui. Arménienne et maraîchère, vous imaginez quand on a une grand-mère comme ça.
Évidemment.
Alors en fait, cette aubergine, elle va être confite. Et ensuite, elle va s'ouvrir un petit peu. On va ouvrir cette aubergine avec une petite poche et on va la farcir avec de l'oignon qui aura cuit très, très doucement, à peine translucide, un concassé de tomates, une persillade. Alors, pour cette recette d'Imam Bayildi, en fait, il y a énormément de variantes. Alors là, je vous raconte la mienne de variantes.
La version familiale, qui est la bonne et la meilleure.
Un point est absolument essentiel. Quand il s'agit d'une recette d'été, c'est indispensable de faire cuire les aubergines sur le barbecue. Pourquoi ? Parce que ça va donner ce petit goût fumé qui est inimitable, qui est incroyable et qui va vraiment relever le plat. Alors en fait,
et accessoirement, Sonia, on peut se passer de gras sur le.
Ah mais la plupart des recettes qu'on va déguster aujourd'hui, il n'y a pas de gras.
Non, parce que très souvent, et ça, c'est des réactions d'auditeurs qui nous viennent aussi via notre mail, on va déguster à radiofrance.com. Beaucoup de gens disent, ceux qui nous écoutent, et ils ont raison, l'aubergine est souvent considérée comme une éponge à
si
gras.
Si on la fait cuire comme ça, brute, juste après l'avoir découpée, oui, elle va absorber énormément de gras. Alors pour certaines
recettes, on la connaît frite aussi.
Alors c'est délicieux, par exemple, un gros pavé d'aubergine, une belle tranche d'aubergine bien grillée avec, moi je mets par exemple des petites sardines marinées par-dessus, c'est absolument délicieux. Aujourd'hui, on a du mal à supporter ce gras. Alors la petite astuce, c'est que ces lamelles d'aubergine, on les fait cuire 5-6 minutes à la vapeur. On les sèche un tout petit peu sur un papier absorbant et après, ni vu ni connu, avec quelques gouttes d'huile d'olive, on les fait dorer. Le résultat
donc
est le même.
On les fait pré-cuire en quelque sorte à la vapeur, voilà. Ce qui permet d'éviter l'étape beaucoup de gras.
Et on a exactement le même résultat. C'est-à-dire que l'aubergine est fondante, moelleuse, dodue, comme on l'aime, et croustillante et colorée.
Là, voilà,
et là,
la
on a
idée.
Les deux astuces. Et quand on veut faire de nombreuses recettes, comme le baba ganoush qu'on évoquera tout à l'heure, le caviar d'aubergine, la salade d'aubergine, cette fameuse salade, cette fameuse imam bayeldi, en fait, j'utilise le barbecue quand c'est l'été, donc après avoir cuit les merguez, les saucisses, le poulet, ce que vous voulez. Les braises sont toutes douces. On va poser les aubergines sur la grille juste au-dessus des braises. Même quelquefois, si elles sont très mourantes, on peut même poser les aubergines dans la braise. On les oublie. Elles vont faire une petite carapace, voilà, croûter. À l'intérieur, ce sera extrêmement moelleux. On les laisse refroidir et on récupère cette chair qui est délicieusement
et qui aura accessoirement cette petite note.
Si on n'a pas le barbecue, on prend à la maison la plaque en fonte pour griller. On fait bien griller l'aubergine sur toutes les faces et ensuite on peut continuer à la faire confire au four. Il faut absolument avoir ce petit voile fumé qui va parfumer la chair d'aubergine.
Allons, oui,
c'est un fruit qui a vraiment du goût par la peau. C'est-à-dire que moi, j'aime les peaux grillées. Il y a deux plats en un. C'est donc on fait juste sur le barbecue. On peut aller alors, pousser
si
assez loin.
Si je peux me permettre une toute petite parenthèse anti-gaspi, on n'en est pas encore à gaspiller. Vous parlez de la peau. Par exemple, à Naples, j'ai vu une recette extraordinaire que j'utilise désormais tout le temps. En fait, la peau des aubergines qu'on n'utilise pas parce que certaines recettes, on a besoin que la chair. On la coupe en fine julienne. On fait revenir cette peau d'aubergine, donc coupée en petits filaments, dans une poêle avec quelques gouttes d'huile d'olive et un peu de fleur de sel. On dirait des algues en fait séchées. En fait, ça a le goût d'aubergine. C'est délicieux. Vous mettez ça sur des spaghettis, sur du poisson grillé, etc. C'est formidable et anti-gaspi.
Allez, je glisse un petit hommage à Mamita, ma grand-mère de Bastia, qui avait l'habitude de ne jamais rien jeter, évidemment, et qui utilisait les peaux d'aubergine, un peu à, oui. de votre façon, en faisant des straillets. Encore, ça veut dire des lacets. Et uniquement avec un demi-millimètre de chair blanche, uniquement la peau, coupée un peu en tagliatelle et sauter avec un tout petit peu d'ail et un tout petit peu de sauce tomate. Ça s'appelle les aubergines à la straillée et je peux vous assurer que c'est absolument extraordinaire. On s'est égaré, on va essayer de revenir vers l'imam Bayildi,
oui.
sachant qu'imam Bayildi veut bien dire l'imam qui s'évanouit de plaisir.
En dégustant cette recette extrêmement fondante.
Alors, vous nous l'expliquez en deux mots s'il vous plaît, Sonia.
Cette aubergine, alors en général, on choisit des aubergines pas trop grandes, c'est-à-dire elles ont une dizaine, 10-12 cm, un petit peu dodues. On peut prendre des aubergines classiques, celles qui sont top, c'est les aubergines tigrées, violettes. Alors ça, celles-ci, elles sont top. Pourquoi ? Parce que leur chair est très fine, il y a très peu de graines. On va les faire cuire, comme je vous ai dit, soit sur le barbecue, soit sur une plaque, au four confit. Et après, vraiment, la peau va être elle va se craqueler très facilement. On va ouvrir. Si on veut, on peut récupérer la chair et la mélanger avec ces fameux oignons qui sont confits à l'huile d'olive, à peine translucides, jamais colorés, un concassé de tomates, une bonne persillade. On mélange le tout. Si vous voulez une toute petite pointe de cumin, et je vous invite à déguster tiède ou froid avec un yaourt. Alors ce yaourt, c'est du matzoun,
oui.
c'est du yaourt arménien en fait, très légèrement
un peu
acide. Exactement, il est acidulé et il est parfumé. Alors là, il est parfumé à la sarriette et à l'ail, on peut le parfumer à la menthe. Et je vous invite à goûter donc l'imam Bayeldi avec... Et je récupère les gens qui s'évanouissent.
Donc il faut, c'est ça, et donc il faut des aubergines de taille moyenne, trois gros oignons, des tomates concassées, de l'ail, du persil plat. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud Darsonval? Je sais par ailleurs que vous avez
mangé, mais c'est très bon.
C'est très bon.
Excellent.
C'est excellent.
Il ne faut pas que je m'évanouisse maintenant, c'est ça.
Oui,
non, il faut
pas
tenir
le moment. Non, c'est surtout pas le moment car on a besoin de vos lumières. L'imam Bayildi, la recette de Sonia et la recette familiale qui plus est de Sonia Esgulion à retrouver sur franceinter.fr à la page on va déguster dans un instant. On va passer à d'autres recettes avec Sonia. Petit point sur l'aubergine. C'est vrai que l'aubergine, pour nous, sur l'étal, ça a été pendant très longtemps ce légume oblong de couleur justement aubergine, c'est-à-dire ce violet un peu sombre.
Il ne faut pas se leurrer, c'est toujours un peu le cas.
C'est toujours un peu le cas.
On ne trouve pas beaucoup de diversité sur nos étals.
Mais j'ai quand même le sentiment qu'on accède à des variétés moins connues et qu'on milite un peu chez les maraîchers, sur les étals, pour la biodiversité. Qu'en pensez-vous, Arnaud Darsonval ?
C'est sûrement lié à son arrivée tardive, de toute façon, en France. Mais aujourd'hui, on commence à pouvoir s'amuser un peu plus au niveau des variétés, tant au niveau de la culture, mais aussi esthétique, du goût, des textures, de la conservation. Donc on peut retrouver...
Vous en avez cueilli combien là ?
Il y a j'en ai ramené à peu près 5-6. Donc j'ai celle qui peut être intéressante pour ceux qui veulent cultiver dans leur jardin, notamment au nord de la Loire. J'ai l'aubergine très hâtive de Barbantane, qui est un fruit très...
Barbantane,
voilà. En Provence.
C'est un lieu dit ?
Oui, tout à fait.
C'est un village, en Provence.
C'est un village,
oui, bien sûr. C'est un village.
En Bouches-du-Rhône.
La Provençale a parlé, Estelle Payani.
Donc, c'est des fruits assez allongés.
Oui.
Très hâtifs. Mm-hmm. Donc, c'est une variété précoce, donc qui mûrit assez vite, qui a besoin d'un peu moins de soleil, même si définitivement les aubergines ont besoin de chaleur et de soleil.
Bien sûr, donc, c'est un légume du soleil.
Exactement.
Plutôt du sud, mais celui-ci, on peut donc le faire pousser au-dessus de la Loire et c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Il y a des variétés qui sont assez rigolotes, mais pas que rigolotes, c'est-à-dire comme qui s'appellent les blanches rondes à œufs.
Alors ça, ça ressemble pour moi à un œuf de canard ou un œuf d'oie.
Exactement.
Et on comprend pourquoi les Anglais l'appellent eggplant.
Exactement.
Dans le cajou, il y a un œuf d'autruche, je crois.
Vous avez raison, ce sont les Américains qui disent eggplant, parce que les Anglais disent aubergine. Thank you very much.
Celle-là, elle a un intérêt, c'est qu'on peut... Elle fait une plante très ramifiée. Mm-hmm. Et qu'on peut la cultiver assez facilement en pot. Donc c'est aussi l'intérêt.
Parce qu'au départ, l'aubergine était une plante décorative avant d'être une plante ornementale.
Oui, absolument. Jusqu'en 1760 encore, elle était et même dans Le Bon Jardinier en 1808, un ouvrage de référence pour les jardiniers, elle était décrite tout juste comme une plante qu'on commençait à pouvoir manger, mais pour des ragoûts de fantaisie. Donc c'était quand même.
Il y a des dictionnaires en sanskrit qui indiquent que l'aubergine était consommée bien avant notre ère, alors qu'effectivement, en Provence, qui est à peu près la terre d'élection française de l'aubergine, elle n'est consommée que depuis le début du 19e siècle et elle apparaît effectivement dans les catalogues de botanique à cette époque-là. C'est finalement une époque très récente.
Exactement. Et du coup, là, j'ai aussi une aubergine qui a.
Alors ça, vous allez garder la surprise. Est-ce que c'est celle de New York?
Non. Ah. Alors, j'ai pas pu l'emmener, celle-ci.
Ah, pas pu l'emmener, mais on en parlera après. Racontez-nous celle-ci.
Celle-ci, c'est la Violetta di Firenze, donc la violette de Florence.
Oui.
Donc, un mauve parme, enfin, très joli.
Plus, d'ailleurs, moins oblongue que très ronde.
Non, elle devient ronde et même un peu côtelée, avec des stries parfois blanches.
Oui.
C'est une variété plutôt tardive, assez productive pour des gros fruits comme, comme ceci.
Oui.
Et avantage, c'est qu'elle présente peu de graines. Et puis qu'elle fait quand même de beaux fruits.
C'est vrai que les chairs peuvent tout à fait varier en termes de texture, hein, Sonia, il y en a des plus ou moins denses.
Celle-ci, par exemple, la Florence, la belle de Florence, en fait, elle est parfaite pour les aubergines à la vapeur, je trouve, parce qu'elle a une chair très fine, très délicate, presque pas de grains, et surtout, elle résiste bien à la cuisson à la vapeur. Ça, c'est vraiment important. Quelques-unes s'affaissent un petit peu en lambeaux quand on les fait cuire à la vapeur. Celle-ci est absolument parfaite.
Et elle se conserve très bien aussi.
Un auditeur nous demande s'il y a justement un rapport entre le piquant, l'amertume qu'on reproche parfois à l'aubergine avec ses graines, sa teneur en graines.
Pas forcément, non, parce que d'ailleurs, on peut assez facilement... les cueillir de façon un peu immature, donc avant la maturité, notamment par exemple les blanches rondes à œufs. L'avantage, c'est que potentiellement elle fait beaucoup de graines, celle-ci, mais quand vous la cueillez tôt, vous affranchissez de cela.
Et elle reste douce.
Elle reste douce.
En termes de saveur.
Elle a une saveur pas loin, assez proche du champignon, donc elle est assez intéressante, celle-ci.
Très bien, petite pause culinaire avec Estelle Payani.
On va déguster.
Des légumes qui ont longtemps eu mauvaise réputation, Estelle.
Eh oui, quel est le point commun entre l'aubergine, le poivron et la tomate? Alors, non, la bonne réponse, c'est pas la ratatouille. Non plus, l'été, évidemment, c'est leur pleine saison. Alors, je vais vous redonner un autre indice quand même. Je vais rajouter la pomme de terre et le piment.
Moi, je sais.
Et voilà, c'est facile.
Est-ce qu'il sait aussi notre ami
Arnaud? Oui, j'ai une petite idée.
Mais
alors,
oui.
Arnaud, en un mot, la famille?
La famille des Solanacées.
Bravo.
Et oui, voilà. Une famille botanique qui sent le soufre, car parmi ces 2500 variétés, on trouve aussi bien des légumes délicieux que des poisons violents.
Mais ce qu'il y a d'assez intriguant, effectivement, c'est que l'aubergine est une Solanacée, cousine de la tomate, la pomme de terre, les piments, le poivron, etc. Mais curieusement, on l'a vu, la tomate, la pomme de terre viennent du Nouveau Monde, ont été rapportées par les conquistadors d'Amérique du Sud.
Complètement.
Alors que l'aubergine solanacée n'a rien à voir avec cette partie-là du monde.
Originaire de l'Ancien Monde, complètement. Et puis après, ce sont les conquêtes ottomanes et autres qui l'ont dirigée vers le reste du vieux continent.
Et c'est vrai qu'Estherelle nous disait qu'il y avait des poisons violents dans cette famille, comme le datura, le mandragore. Ça, c'est des noms qui font impression.
Oui, quand même, vous êtes balèze en botanique et en sorcellerie. Presque autant qu'en charcuterie corse, François-Régis. Le datura, quand même, on en trouve trace dans les rites vaudous et chamaniques, et mâchouiller une feuille suffit à vous terrasser. La belladone, ça évoque en italien belladone, car elle était utilisée par les courtisanes pour avoir l'œil brillant, mais aussi pour éliminer les jaloux sans laisser de traces. D'ailleurs, la dernière fois que vous êtes allé chez l'ophtalmo pour faire un fond d'œil, vous avez peut-être vous l'avez peut-être essayé sans vous en rendre compte, quelques gouttes d'atropine qu'on vous met dans l'œil. Et c'est peut-être pour ça que juste après, j'ai eu très 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 envie d'aller manger des aubergines farcies. En tout cas, tous les membres de cette famille contiennent des alcaloïdes, qui sont les composants nocifs. Mais dans le cas des légumes qu'on consomme, on se concentre sur les parties qui en contiennent très très peu.
Voilà pourquoi la patate, la tomate ont eu quand même du mal à se faire adopter en France.
Aux légumes sans concession, j'ai mauvaise réputation. On a très vite botaniquement...
Voilà quelle paraphrase notre ami Brassas. On n'est pas sorti de l'aubergine.
Toutes ces plantes quand même ont des points communs, à savoir leurs fleurs à 5 pétales soudées à la base, qui forment comme une trompette ou une étoile. Donc elles ont quand même été assez faciles à reconnaître et ça pouvait rendre réticent. On les a donc longtemps acclimatées sous forme de plantes ornementales. Et la pomme de terre, par exemple, il a fallu un super marketing pour convaincre d'en manger. La tomate, c'est la pêche du loup en latin. Il fallait vraiment être fada pour s'y risquer. C'est les Marseillais qui l'ont emmené avec eux à Paris au moment de la Révolution française.
Et, oui.
Et l'aubergine, quand même, c'était mala insana, c'était la pomme des fous,
ah,
carrément. Et on l'a consommée à Paris seulement à partir de 1825. Attention quand même, hein, si on dit de ne pas manger de patates verdies, c'est justement à cause de la solanine qu'elle contient. Pareil pour les parties vertes de tomates ou d'aubergine. On n'enfume donc pas les feuilles. Bien que le tabac soit lui aussi une solanacée.
Vous ne nous avez pas apporté du caviar d'aubergine fumée au tabac ?
Non, puisque je savais que Sonia se chargerait très très bien de nous régaler de baba ganoush. Moi, pour aller avec, je vous ai proposé une petite salsa de ma création. Une petite salsa du démon qui ira très bien avec ces aubergines grillées. Alors, comme vous l'avez remarqué, les solanacées sont essentiellement originaires d'Amérique centrale. Donc j'ai puisé mon inspiration chez Bernardino de Sahagún, un moine franciscain du XVIe siècle, émigré dans l'actuel Mexique, à qui l'on doit une histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, qu'on appelle aussi le Codex de Florence, qui est une source principale sur les Aztèques et les Incas. Vous pouvez la lire sur Gallica, hein, si vous avez envie d'en savoir plus. Dedans, on trouve les plus vieilles recettes au monde utilisant des solanacées, dont une boisson antidiarrhéique aztèque à base de tomates jaunes, piment et graines de courge, qui en fait s'avère une délicieuse petite sauce. Il va vous suffire de mettre dans un mixeur 50 g de graines de courge, un petit poivron que vous aurez fait auparavant griller, ôter la peau, 100 g de tomates et du piment, alors du frais, du sec au goût. Moi j'ai mis un petit piment fumé pour ajouter ça. Mm-hmm. Vous mixez tout, vous pouvez rajouter de l'ail, de la coriandre si vous voulez, et vous avez quelque chose entre la salsa et le pesto qui pourra aller dans des sandwichs et sur toutes les salades de l'été.
C'est bon parce qu'il y a le croustillant. Vous les faites un peu torréfier, vos graines de courge ?
Oui, évidemment.
Parce que ça apporte le croustillant. Il y a le croquant de la graine, il y a la douceur de la tomate avec cette légère acidité. Il y a une petite finale un petit peu vicieuse, des piments un peu qui montent en chaleur. C'est vraiment très agréable.
Comment je dois le prendre, ça ? Parce que c'est un antidiarrhéique avec ma cuisine. On m'a dit donc.
Non, mais les recettes du 16e siècle ont toujours de très bonnes inspirations.
On pourrait l'appeler la solana salsa.
Ah là là, c'est vendu.
Et la solana salsa, vous la verriez avec quoi, Sonia Esgulian, spontanément ? Peut-être sur des aubergines, justement ?
Ah ben peut-être sur des aubergines, oui. Mais alors, carrément, des petites aubergines, justement, coupées en tranches, vapeur bien grillée, et puis on les met par-dessus, et là, ça va
relancer ce petit goût.
Arnaud, vous avez un avis sur la question ?
Ça donne soif, par contre.
Ça tombe bien, parce qu'Antoine Gerbel est pas prêt. Il est dans les starting blocks avec ses deux belles cuvées de l'été qu'il va nous conseiller dans un instant. Des recettes de Sonia Esgulian, évidemment, dont ce fameux baba ganoush, et des aubergines vapeur à la mode de Saïgon, dont on vous donnera des nouvelles, je peux vous assurer que c'est quelque chose. Mais dans un instant, on fait aussi découvrir une étonnante recette calabraise à partir de melanzane. Et tout ça, c'est juste après Les Enfants de la Plage, Dominica, sur France.
Plage, lianes agiles, brassant le sable, d'où sortent ces grappes enfiévrées, casseurs d'écume, souffle lié, là de sa grippe et les autres en cercle, compte les points, les serre de près, la mort, le sable, le cercle éclate, et ils repartent le point levé. Par où regarder, ils ont les yeux teintés de l'encre vive, de ce que l'enfance va lâcher, d'où sortent ces briseurs d'écume, mordant le sable et qui repartent. Le point levé. sortent ses grappes enfiévrées. Casseur d'écume, souffle lié, la de sa grippe et les autres en cercle, compte les points, les serre de près. La mort, le sable, le cercle éclate et ils repartent le point levé.
L'aubergine, au menu dont on va déguster sur France Inter, nous sommes le dimanche 15 juillet en direct avec Arnaud d'Arsonval de la ferme de Sainte-Marthe, un semencier artisanal angevin qui a beaucoup de succès auprès des chefs, des jardiniers amateurs, des maraîchers. C'est une ferme exceptionnelle qui lutte contre la biodiversité, évidemment, à travers ses différentes variétés de semences et notamment l'aubergine. Et Sonia Esgulian qui a une relation très étroite à l'aubergine, l'une de nos cuisinières préférées.
Allora amici, andiamo a mangiare le melanzane su France Inter.
L'aubergine a forcément l'accent italien, les amis, on est d'accord?
Ah oui. Oh. Ouais.
C'est ce que nous avons vérifié il y a quelques jours avec notre amie Alessandra Pierini. Vous la connaissez, Sonia?
Oui, je l'adore.
De l'épicerie Rave, je sais que vous avez une relation très amicale. Et nous sommes allés faire une magnifique virée en Calabre, au sud de l'Italie. Dans le charmant village de Pizzo Calabro, nous avons rencontrer le chef Giuseppe Giovanni Di Martino du restaurant Capero Rosso. Sa spécialité, les polpette di melanzane. Ce sont des boulettes végétales où la viande est remplacée par la chair d'aubergine. Vous voulez la recette?
Ah oui, ah oui.
Andiamo.
Arrivato a questo punto, incominciamo à préparer.
Il met toutes les aubergines qui ont été trouées. Il faut qu'elles soient, restent dans le four très chaud, environ 200 degrés, pendant une bonne demi-heure. Et le four sert à sécher complètement toute l'eau qu'elles ont les aubergines.
Donc équeuter, juste trouer avec une fourchette, pas du tout couper en deux, laisser entière. Et pas d'huile d'olive, pas de matière grasse, pas d'ail, rien. Et là, on en avait environ 4 aubergines.
Donc on peut faire environ une quinzaine de polpette. Le chef est en train de couper au couteau une bonne quantité de persil.
Ça sent là, hein, avec des notes comme ça, presque de céleri.
Alors l'aglio.
Là, il a émincé une gousse d'ail et demi d'ail. Ensuite, il y a des capperi.
Le chef a rajouté juste quelques capres, ça fait environ une quinzaine de pièces, ça fait un quart par rapport à la quantité de persil. Ça sert non seulement à donner ce goût particulier, mais aussi pour rendre plus savoureux, sans être obligé de rajouter du sel à cette farce.
Ora mescoliamo tutto insieme.
Alors là, et le persil et les capres, maintenant, sont tous assemblés. Giuseppe est en train encore de les découper un petit peu tous ensemble, de façon qu'ils se mélangent de façon uniforme. Et c'est en fait ce qui constitue la base plus savoureuse pour relever cette recette.
Et là, on obtient un hachis très fin, persil, ail, capre. Perfetto. Allora, chef.
E adesso insegniamo piano piano prezzemolo.
Pendant que les melanzane donc continuent à cuire au four, le chef dépose dans un plat creux le mélange de persil, d'ail et de capre pour que toutes les saveurs se mélangent bien ensemble.
Iniziamo a grattugiare il pecorino.
Notre pecorino est râpé finement.
Toccando la melanzana, quindi riusciamo a capire il grado di cottura che può avere.
On a tourné les aubergines dans le plat au four.
Prima il forno.
Les aubergines, elles sont complètement noircies. Elles ont vraiment fondu, séché.
Là, il l'ouvre carrément avec un couteau à pain. Et la chair, là, a l'air bien fondante.
Alors, adesso con un cucchiaio.
Giuseppe est en train de creuser donc le cœur de l'aubergine qui sort très 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 facilement. Il le dépose sur une planche à découper. Comme ça, déjà, elle le refroidit davantage. Elle sera prête ensuite pour être découpée.
Un parfum extraordinaire. Une certaine douceur avec une note légèrement fumée qui est liée à la peau grillée des aubergines. Alors là, il découpe finement avec un grand couteau la pulpe de l'aubergine. Et dans le saladier, il incorpore la pulpe d'aubergine taillée avec le mélange capre, persil et ail.
Donc il y en a environ une dizaine des olives noires de la région qui vont être dénoyautées à la main, toujours coupées finement avec le couteau comme les autres ingrédients et incorporées à la préparation.
Prendiamo l'uovo, lo apriamo e
on prépare juste un œuf, on le casse, on le mélange à la farce.
Allora, adesso, in questo momento,
on prend donc le pecorino râpé qu'on avait préparé auparavant.
Et là, le chef, vous mélangez avec les doigts. Il ajoute la chapelure jusqu'à ce qu'il obtienne une consistance un peu plus compacte, puisque la chapelure va s'imbiber du liquide.
On est prêt pour frire les polpettes d'aubergine.
Il pose la poêle sur le feu. Il y a un bon 30 centilitres d'huile d'olive.
On fait une petite quenelle exactement de farce en la roulant sur le paume de sa main, sur laquelle on aura déposé une bonne pincée de chapelure.
Siamo pronti, incomincia a friggere.
La belle couleur dorée.
Là, le chef vient de retourner la polpetta dans l'huile d'olive pour bien saisir et faire croustiller la partie qui était restée au-dessus.
Il y a l'odeur en plus de l'ail et du persil qui a frit dans l'huile d'olive et qui libère aussi ses parfums.
Alors, in questo momento, le polpette
la cuisson elle est bien homogène et maintenant on les sort avec une cuillère, une petite écumoire et on les dépose sur du papier absorbant. Et il est conseillé de les manger chaudes, mais c'est une recette qu'on peut apprécier aussi refroidie, juste température ambiante.
C'est bon. Il y a une petite croûte à l'intérieur, c'est très moelleux.
Tout de suite, on sent la saveur des olives. L'aubergine, c'est quand même étonnant, comme ça fait ce fondant.
Molto, molto buono, chef. Bravo, hein.
Grazie.
Grazie mille.
Les polpette di melanzane, tout en jazz. C'était une séquence montée par notre réalisatrice Camille Blanès. C'est le chef Giuseppe Giovanni qui était au fourneau. Elles vous font envie, ces boulettes?
Mamma mia. Je ne sais plus trouver les mots. Franchement, ça fait très envie. J'adore cette idée.
Et je peux vous assurer que c'est très bon. Sans viande. Avec une texture moelleuse qui fait pourtant penser à de la viande hachée. C'est très étrange. La recette traduite par notre amie Alessandra Pialini sur France Inter à la page On va déguster. Et on en profite, chers auditeurs, pour vous annoncer qu'on prolongera ce voyage en Calabre en compagnie d'Alessandra Pialini. Le dimanche 2 septembre, ce sera notre première émission de rentrée. Petit accent italien, on va y rester avec cette variété d'aubergines dont parlait Arnaud d'Arsonval. Vous nous répétez cette variété, Arnaud ?
Avec l'accent, la Violetta di Firenze.
La Violetta di Firenze. Alors, on parle d'un gros ballon, enfin d'un ballon d'une belle taille quand même, assez ronde, plutôt côtelé, avec une couleur assez claire et parfois des striures blanches. Et il se trouve que c'est la variété emblématique qu'utilise Sonia Esgulian pour la recette qu'elle nous propose.
Oui,
excellente.
Alors, en fait, cette aubergine, je l'ai appelée aubergine comme à Saigon, mais elle a beaucoup de petites notes italiennes. Pardon, hein, mais c'est un mélange parce que j'aime bien mélanger différents voyages, en fait. Les aubergines, pour moi, elles symbolisent toujours un voyage. D'ailleurs, j'en parlais dans
Votre
À boire et à manger.
Votre cuisine est en jet lag permanent.
Voilà, non, dans À boire et à manger, je racontais l'histoire d'un voyage avec un ami, Thierry Goujon, qui lui est passionné d'aubergines. Et à chaque fois qu'on voyage, on est allé ensemble au Japon, au Vietnam, dans différents pays, il y a eu une histoire incroyable autour de l'aubergine. Et donc, quand je rentre, ce qui me plaît, c'est d'essayer d'imaginer des recettes. Et cette recette, donc, aubergine comme à Saigon, j'ai choisi de la réaliser avec cette belle aubergine originaire de Florence, comme son nom l'indique.
Si on ne trouve pas forcément cette variété, Sonia, on s'oriente vers quoi ? Une aubergine un peu blanche, avec une chair
blanche,
dense.
Et puis, il faut une chair très dense et surtout pas trop de graines. Alors, s'il y a des graines, c'est pas très très grave. Les petites graines, en fait, une fois que l'aubergine a cuit à la vapeur, on peut les enlever avec une cuillère à café, ça s'enlève très facilement.
Mais l'aubergine en graffiti, ça peut aller ?
Une graffiti, après je pourrais proposer l'aubergine monstrueuse de New York.
Et bien on va en parler dans un instant, évidemment, vous allez voir. Oulala, vous faites du teasing sur un spécimen végétal absolument étonnant. Attendez, graffiti, Estherelle, une petite précision pour ceux qui ne se situent pas.
C'est une variété assez commune qu'on trouve en bio, qui est blanche, légèrement tachetée de violet.
De violet, qu'on trouve assez facilement. Oui. Elle est beaucoup plus petite. L'idée, c'est que l'aubergine de Florence, là, elle est extrêmement grosse. Elle ressemble à un gros melon, en fait. On va l'éplucher, on va la couper en gros. Dés. Les dés, ils ont à peu près la taille de deux morceaux de sucre, on va dire. Et on va les mélanger dans de l'eau avec du gros sel, juste pour faire un tout petit peu dégorger l'aubergine, mais vraiment 10 minutes.
D'accord.
Ensuite, on égoutte. On met ces aubergines à cuire à la vapeur.
Ah, donc on les éponge pas puisqu'elles vont à la vapeur. D'accord.
On va les faire cuire à la vapeur. Là, vraiment, elles vont légèrement se tasser. On ne les cuit pas très très longtemps. Hein. Selon la quantité d'aubergines, on les cuit à peu près une quinzaine de minutes.
Là, on les a juste coupées en deux, pardon, vous l'avez précisé, ou on
les
coupe en gros.
J'ai épluché l'aubergine et j'ai coupé des gros morceaux.
D'accord.
Excusez-moi. Deux tailles de carré de sucre. à peu près, pour montrer.
Voilà. Ça fait précis. Hein.
Parce que bon, moi, je suis une cuisinière du quotidien, donc je fais des équivalents et pas des pesées.
Qu'est-ce qu'il faut comme cuisson à peu près, Sonia?
Un petit quart d'heure, on regarde, on voit tout de suite, l'aubergine, c'est légèrement affaissée. Donc ça y est, elle est cuite. Pendant ce temps-là, dans un mortier, je vais écraser du gingembre frais, de l'ail. Alors le gingembre et l'ail, c'est une petite cuillère à café, on y va mollo. Hein. Normalement, à Saïgon, on mettrait du nyokmam.
Mais on peut.
On peut, bien sûr.
Il s'agit de ce jus de poisson fermenté.
Oui, voilà. Alors moi, j'ai une petite préférence pour la colatura que je vais m'approvisionner donc chez Alessandra.
Colatura di Alici.
Voilà, c'est une spécialité de Cetara, près de Naples. Et vraiment, c'est un petit peu pareil. C'est cet extrait de poisson délicatement parfumé, d'anchois.
On pourrait dire que c'est la version moderne du garum romain.
Exactement. C'est délicieux sur plein de choses, les pâtes, etc. Là, je mélange. On met un petit peu de cébette, un peu de coriandre, de la fleur de sel, et vous dégustez froid. Donc, je vous laisse découvrir. Bah, monsieur a déjà fini.
J'ai déjà tout mangé.
Alors, on peut avoir.
C'est délicieux. Voilà. C'est délicieux. C'est un bonbon. C'est vraiment. C'est excellent.
L'assiette est finie.
Arnaud a fini son assiette. Il a plus grand-chose. D'ailleurs, il est en train de vous le faire comprendre. Il paraît qu'il n'y a pas un apéro, pas une réception chez Sonia Esgulian à Lyon sans ces aubergines que vous réclament vos amis.
Alors, il y a deux grands classiques. Il y a comme à Saïgon et il y a les toutes petites aubergines vinaigrées. Ça, c'est un des petites friandises préférées de Damien Gâteau, le sommelier. On vous attend à Lyon. Hein. Oui, franchement, un jour, émission spéciale à Lyon. Parce que ces petites aubergines vinaigrées au vinaigre de cidre, là, c'est génial avec le saucisson, les terrines, l'oreiller de la belle aurore, etc. Il faut venir à l'automne.
Oh, un bonbon, c'est fondant, ouais. C'est magnifique.
On dirait des figues visuellement. On suffirait presque prendre de loin.
Alors ça, ce sont des toutes petites aubergines que vous connaissez, les fameuses indiennes, poussins, que j'ai trouvées sur le marché à Aix.
Mais on n'en voit pas souvent sur les marchés.
Elles ont la forme d'un pouce.
Je n'en ai trouvé qu'au marché à Aix. Alors j'appelle. Alors c'est pour ça que j'ai acheté dans les magasins à la ferme de Sainte-Marthe et j'ai fait pousser dans le jardin de mon papa ces fameuses aubergines.
Sinon, il faut aller dans le quartier indien.
Bien sûr, le quartier indien à Paris.
Merci pour le radis, on en trouve.
Ou dans des épiceries exotiques. Et alors là,
la recette ultra simple, incisé en deux. Plonger 3 minutes dans l'eau bouillante, on égoutte, on sèche bien sur du papier absorbant, on met dans un bocal, vinaigre de cidre, pas d'eau, on ne met pas de mélange, vinaigre de cidre et plein de choses. De la coriandre en grain, des brins d'estragon, ce qu'on veut, ce qu'on aime, un piment. On attend 15 jours patiemment. Et de toute façon, il n'y en a jamais assez. Donc, il faut en faire plein de pots.
Moi, je pensais vraiment que le vinaigre était coupé à l'eau parce qu'on pourrait s'attendre avec uniquement du vinaigre de cidre d'avoir un truc trop électrique.
Alors là, c'est la chair de l'aubergine qui fait des miracles parce qu'elle rend un petit peu d'eau. Vous le verrez d'ailleurs.
Et vinaigre de vin, trop fort.
Ah, j'ai jamais essayé, il faut que j'essaye.
Je vais essayer. Vinaigre de vin blanc parce que sinon, ça colore un peu trop peut-être.
J'essaierai.
Et extraordinaire. Toutes les recettes de Sonia Esgulian, évidemment, à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. La folle histoire d'un spécimen incroyable, une espèce de météorite végétale qui malheureusement n'a pas pu atterrir sur le plateau dont on va déguster car c'est pas tout à fait la saison. Mais vous nous en dites un mot, Arnaud d'Arsonval, attention le nom. L'aubergine.
L'aubergine monstrueuse de New York, aussi appelée aubergine violette ronde très grosse.
De quoi vous connaissiez ou pas?
L'attaque de l'aubergine géante.
L'aubergine monstrueuse de New York. Et de New York en plus.
Et en fait, c'est une variété qui avait disparu. Mm-hmm. Donc dans les années 70, sûrement un peu trop épineuse ou qui se conservait mal dans le transport.
Ah, le pédoncule piquait un peu.
Le pédoncule piquait. Et en fait, on a ouvert un ancien catalogue avec Dominique, mon associé, et puis on a recherché une vieille variété qui pouvait être intéressante. On a vu cette ancienne variété qui faisait des très gros fruits, 3 à 4 kilos. On s'est mis à la recherche de graines, et en 2010, on a trouvé auprès
4 kilos, vous rendez compte?
Un potiron, quoi, en fait.
Auprès de l'INRA d'Avignon, ils avaient dans un frigo 25 graines qu'ils nous ont gentiment données. Et on est parti à partir de cette souche, finalement, on a relancé la culture en Anjou. Et on a pu redévelopper et réinscrire à nouveau cette variété qui est aujourd'hui disponible. Donc nous, c'est une variété évidemment libre de droit, donc libre pour tous. On a beaucoup de devoirs.
Reproductible, voilà. C'est pas une hybride, c'est évidemment une variété ancienne.
Donc l'inconvénient pour un semencier comme nous, c'est qu'elle fait peu de graines. Donc, par contre, évidemment, pour la cuisine, c'est top. Donc,
mais il faut s'accrocher pour la multiplier, effectivement.
Pour la multiplier, il faut beaucoup de pieds, il faut monopoliser pas mal d'espace. Mais bon, ça, c'est un peu notre problème.
C'est quoi ce vieux catalogue?
Mais justement, c'est un catalogue de 1923 de Villemorin-Andrieux,
qui présentait et qui parlait de cette ancienne variété.
Incroyable.
Et on retrouve d'ailleurs toutes les variétés que j'ai ramenées aujourd'hui.
Moi, je demandais à Arnaud s'il veut bien un troc, deux ou trois pots d'aubergine vinaigrée contre une moustre.
J'avais prévu des échanges du troc entre nos invités. Sonia grappille partout et en même temps, elle offre beaucoup d'elle-même. Et c'est comme ça que fonctionne la cuisine. C'est une affaire de partage. Et en plus, elle a un certain intérêt, cette aubergine monstrueuse. Elle n'est pas si monstrueuse en goût. Au contraire, elle est même très bonne.
Non, elle est très bonne, très charnue, une saveur douce. Elle a des fruits assez noirs de l'extérieur pour la peau. Et elle se conserve très bien.
Ah, mais on va s'arranger après l'émission.
Voilà, cette opération sauvetage d'une ancienne variété d'aubergine, ça illustre le formidable travail que vous faites à la ferme de Sainte-Marthe. Allez faire un tour sur votre site internet, il y a des centaines et des centaines de variétés anciennes pour les jardiniers amateurs, les particuliers, vous cultivez également pour les chefs.
Et pour les aubergines, vraiment, je passe un message.
Oui.
Il faut donc la petite aubergine que vous aviez, le mieux c'est de la semer finalement, vu qu'on la trouve pas partout, et avec une terre à 25 degrés. Et des graines qui ont été bien fabriquées, ça fonctionne très bien, et tout le monde y arrive.
Très bien, de la couleur aubergine, on passe au rouge.
On va déguster sur France Inter.
Variation sur les rouges de l'été avec notre ami chroniqueur Antoine Gerbel, très régulier dans l'émission dont on va déguster.
Alors, l'aubergine, elle m'a inspiré. L'aubergine, ça tombait bien parce que j'avais un grand road trip programmé dans le sud pour ma télé, web télé Tellement Soif.
Et on peut le redire, Tellement Soif, c'est la web télé qu'anime Antoine Gerbel avec de formidables interviews, des enquêtes, des reportages tout à fait intéressants à retrouver sur le web.
Alors, dans le sud, alors déjà, préambule, la fameuse théorie des accords, mets et vins. Vous savez qu'on regarde la couleur d'un plat ou la couleur d'un légume, on peut donner une idée à peu près de l'accord. Alors, l'aubergine, c'est bien parce que c'est aubergine, on va dire rouge dehors, pour faire simple, et quand on les coupe, c'est blanc à l'intérieur. Donc voilà, camarades, vous avez votre choix entre les blancs et les rouges. Il n'y a pas vraiment de discipline, il n'y a pas de chapelle. Alors, les blancs, je les ai un peu évacués. Deux mots sur les blancs. Des blancs du sud, bien évidemment, de la Marsanne, de la Roussanne. Allez plutôt dans le Languedoc, le Pic Saint-Loup, les terrasses du Larzac. Là, vous allez avoir des blancs avec de la chair, pas beaucoup d'acide. Parce que pas besoin d'acidité pour faire des accords avec l'aubergine. Il y a très belle chose, j'ai dégusté les clairettes de Languedoc, toute petite appellation qui fête ses 70 ans. Et il faut découvrir la clairette, un cépage qui mûrit tardivement, donc qui correspond totalement au problème des vignerons qui ont trop de chaleur et qui récoltent beaucoup trop tôt. Et elle a une peau épaisse, cette clairette de Languedoc, il en reste presque plus. Je veux dire, son territoire, c'est le centre de l'Hérault, clairette du Languedoc, 70 ans. Si vous voulez une adresse, ça sera la Croix-Chaptal, qui est le domaine vraiment le seigneur de cette appellation. Mais on part sur les rouges. J'étais parti sur les rouges, sur l'aubergine. Et alors, je descends et je fais ma première halte en Provence. Je rencontre des vignerons extraordinaires dans une association qui s'appelle Rouge Provence. Alors, Rouge Provence, comme ça, on est dans le Haut-Var, côté de Roquebrussane. On est chez Jean-Christophe Comor, le domaine des terres promises. Autour de lui,
quel vigneron ?
Peter Fischer, le plus allemand des Provençaux, Raymond de Villeneuve de Roquefort, Daniel Ravier de Tempier, toute une bande de vignerons sympathiques, et on boit et on goûte. Et il est tard dans la nuit, et un sommelier, j'ai oublié complètement son nom, je crois qu'il travaille à Monaco, il m'amène une bouteille, il me dit goûte à l'aveugle, bien évidemment, goûte ça. Et ce goûte ça, désolé, je peux pas vous faire goûter parce que monsieur Chronopos a trop regardé le foot, il a oublié de m'envoyer la bouteille, elle est encore dans une poste, je ne sais pas où. Et ce goûte ça, c'est le domaine de Barbossi, une cuvée qui s'appelle Mando 2014. Alors, je ne connais absolument pas. Il me dit, moi je parle sur... Oh, ça me fait penser à un pinot noir de Dirancy. Je vois ça très 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 frais et très au nord. Pas du tout, pas du tout. C'est un grenache noir, mais doux, de Mandelieu la Napoule. Vous avez déjà vu des vignes, vous, à Mandelieu la Napoule. On est à Cannes, le massif de l'Estérel. Et alors, je cherche, en fin de compte, c'est le domaine Barbossi, qui est en fin de compte un gros complexe, hôtelier, golf, centripique, séminaire, qui a un tout petit vignoble. Ça appartient à un milliardaire franco-libanais. Bon, ça n'a pas grand intérêt, ça. Mais ils ont embauché un gars génial, qui s'appelle Sébastien Munoz, un jeune gars qui a bossé chez Auvernois, Cabochet, chez Derain, on va dire les grands natures du Nord. Et il a trouvé, il s'est installé, il a choisi ce boulot-là, non pas pour faire briller, on va dire, un site très bling-bling, mais pour, il s'est dit, le site est neutre, on peut travailler en nature, sans produits de chimie, et on va s'éclater. Et il nous a vraiment éclaté, c'était une grande découverte pour moi. Alors, il ne vend pas la propriété, mais ça donne l'occasion de dire, d'aller, parce qu'il y a des très bons cavistes sur la côte. Par exemple, à Cannes, il y a la Vinothèque, qui est pour moi un des plus grands cavistes en ce moment français. Il y a la Part des Anges à Nice qu'on connaît bien, ou bien évidemment les Buveurs à Marseille. Ces trois adresses-là, vous trouverez la fameuse Mando 2014 du domaine de Barusso. Et puis j'ai repris la route, j'ai remonté dans les Côtes du Rhône, et dans les Côtes du Rhône, je me suis arrêté au village de Visan. Alors Visan, je pense que peu de gens connaissent, c'est un Côte du Rhône village Visan. Vous savez, cette série de Côtes du Rhône qui mettent un peu trop d'ailleurs, parce que le consommateur se perd, des noms de villages derrière, il y en a tellement. Mais Visan, il faut s'y intéresser, parce que c'est le nord, on est dans le Vaucluse, on est à l'est de Montélimar, et c'est le nord du Côte du Rhône, donc ça veut dire que les grenages sont frais, on commence à avoir des syrahs un peu moins compotés, confiturés. Et là, j'ai trouvé un jeune garçon.
C'est celui de droite, hein.
C'est celui de droite. Allez. Là, vous l'avez dans votre verre. Ça s'appelle...
Mettez-le en bouche, les amis.
Voilà, ça s'appelle Il était une fois. Le vignoble s'appelle Armas et le garçon s'appelle Xavier Combes. Là, encore une fois, on est tard dans la nuit, on est sous un mûrier, on est en train de boire avec d'autres vignerons. Et je découvre ce garçon qui est, comme cette génération de trentenaires, on va dire que leur père est parti dans le bois, faut aller faire les vins du sud dans le bois, faut les extraire et tout. Eux, pas du tout. Ils travaillent en élégance, ça coûte 9 euros.
C'est super.
9 euros, c'est en bio, c'est extraordinaire. C'est vraiment des vins qu'il faut découvrir. Et je suis remonté sur Paris, il fallait bien être là. Et j'arrive à Lyon, passe sur un célèbre caviste, là aussi encore une fois, qu'on ne peut pas oublier, Antiquane, notre fameux Georges Dos Santos, 18 rue du Bœuf à Lyon dans le 5e. Georges Dos Santos, il n'est pas là, il est où? Il est au Portugal avec un nom pareil, c'est normal. Et là, je découvre, un de ces marchands me fait découvrir un truc extraordinaire, c'est ce que vous avez dans le petit verre, ça s'appelle le Guéritou. Le Guéritou, ça ne s'invente pas, 100% naturel, sans sulfite ajouté, sans échec, à boire avec Pierre, Paul, Jacques et modération. C'est fait avec du masque, principalement des cépages qu'on trouve du côté de la Camargue. Alors, on a du Marcellan, on a du Caladoc, on a un peu Merlot. C'est tout frais, c'est tout goulayant. Moi, je trouve que là aussi, c'est extraordinaire. Chez le Caviste, ça vaut 14 euros. C'est mon vin d'été.
On l'a à gauche ?
On l'a à gauche dans le
Alors,
petit verre.
Alors, un petit commentaire ?
C'est vraiment très frais, en effet.
C'est le sud frais. Et sur nos aubergines, ça fonctionne.
Xavier Combes, moi je suis particulièrement sensible à ce vignoble Armas, que je trouve très intéressant, bouteille à 9 euros.
9 euros.
Très bien, bah vraiment bravo. Les informations liées au coup de cœur de l'été d'Antoine Gerbel à retrouver évidemment sur franceinter.fr à la page On va déguster. Il nous reste une poignée de secondes pour évoquer cette recette. Il y a d'ailleurs des auditeurs qui nous la réclament. Baba ganouche, là il s'agit d'une purée d'aubergine.
Alors baba ganouche, super
d'origine
simple.
D'origine levantine.
Si on peut, on fait toujours notre aubergine sur les braises du barbecue entière. On fait juste des petits trous avec la pointe du couteau. On les met entières jusqu'à ce qu'elles soient bien bien confites. Si on ne peut pas, on met au four. On coupe en deux, on fait des petits croisillons et on met à bien 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 griller. On récupère la chair de l'aubergine extrêmement confite. Et là, on va battre le tout. Alors on peut mixer si on veut une texture très lisse ou alors simplement avec une fourchette.
On écrase.
Avec du tahine. Qu'est-ce que le tahine? C'est une crème de sésame.
Bien sûr.
Je fais une petite pub parce que j'ai découvert ma fournisseuse de crème de sésame, la crème des crèmes, Faten, qui m'a fait goûter notamment une crème de sésame au pavot, absolument à tomber par terre.
Elle est où? On trouve ça où?
Elle est dans le 19e à Paris, crème des crèmes.
Est-ce que ça vaut la belle crème de sésame que j'ai rapportée de Jérusalem à Esther Elbayani?
D'ailleurs, j'ai fini le pot.
Organisons une petite dégustation. Et donc, on va mélanger avec une gousse d'ail, un jus de citron vert. Moi, je mets souvent une toute petite pointe de cumin. On bat le tout. Et en fait, on va obtenir cette texture. Et ensuite, on peut déguster soit avec des herbes fraîches ou avec un petit peu de zaatar.
C'est super.
Il y a quand même controverse entre le baba ganouche et le moutabal.
Oui.
Vu qu'il y a quand même plusieurs variations de la même préparation avec de la mélasse de grenade, des dés de tomate. Et c'est un auditeur, Firas Abounour, justement, qui nous évoque ce sujet délicat.
On précisera la différence, mais on est dans la grande famille des purées d'aubergine, des caviars d'aubergine, absolument. Merci Sonia Esguillon d'être venue jusqu'à nous.
Merci à vous, à manger.
C'est
un bonheur.
Je rappelle évidemment le titre de votre bande dessinée avec Guillaume Long chez Gallimard, dont est extraite la recette de aubergine Saïgon. Il y a également le guide de vos adresses à Lyon publié en septembre 2018 dans la collection Le Voyageur Affamé chez Menu Frottin. Merci beaucoup. Et puis la ferme de Sainte-Marthe à Brun-sur-Lothion en Anjou. Merci beaucoup Arnaud Darsonval d'être venu jusqu'à nous.
Merci à vous. Merci pour
On
tout.
Était vraiment très C'est heureux de vous recevoir. On se retrouve dimanche prochain pour le troisième volet de notre série d'été. Une émission rafraîchissante consacrée à la menthe, avec notamment notre poète du potager, Xavier Mathias. À dimanche prochain, si vous avez encore faim, et allez les bleus!